La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy.
Parce qu'on veut transformer la vie.
Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. La découverte en 1994 de la grotte ornée, la grotte Chauvet-Pont d'Arc, est apparue comme une île stupéfiante dans les paysages aimés de ceux qui naviguent dans l'art de tous les temps. Depuis, elle a été parcourue avec soin et amour par des chercheurs et puis quelques archéologues, poètes et artistes privilégiés. Nous savons plus, infiniment plus qu'il y a 30 ans, sur ceux qui décidèrent d'en faire un sanctuaire que le temps devait nous transmettre. Ce sont d'ailleurs nos semblables, nos parents, ils étaient chasseurs et cueilleurs. Ils vivaient il y a environ 34 000 ans, dans une nature et un climat assez différents du nôtre. Ils firent ce qui aujourd'hui, tous arts confondus de toutes les régions du monde, est indiscutablement un chef-d'œuvre de l'histoire de l'humanité. Et je voudrais, à ce propos, que nous parlions d'un livre exceptionnel. Je cherche un mot pour nommer cet ouvrage de 8 kilos qui fait quasiment 1 mètre par 1 mètre quand il est ouvert et qui a rassemblé les déductions et les constatations de 40 chercheurs, qui fait le bilan de ce que l'on sait. Publié par la Maison des Sciences de l'Homme avec le concours du CNRS, du ministère de la Culture, celui de la Recherche et de l'Institut National des Recherches Archéologiques Préventives, il a été dirigé par 2 chercheurs, 2 explorateurs des temps immémoriaux dont les vies d'exception et de voyage sont presque des romans. Nous allons les rencontrer dans quelques instants. Jean-Jacques Delannoy, qui est géomorphologue, enseignant, membre co-président avec Yves Coppens de l'équipe scientifique de Lascaux et membre de l'équipe scientifique de Chauvet, et puis Jean-Michel Jeunesse, qui a été conservateur de la grotte de Lascaux, directeur du Centre national de préhistoire et coordinateur des recherches de la grotte Chauvet pendant 17 ans. Et d'ailleurs, si vous le cherchez, Jean-Michel, vous le trouverez peut-être en Chine, peut-être au Canada, ou en Afrique, ou dans l'Ardèche, ou dans la Vézère. Il sera en train de fouiller, d'essayer de comprendre et de transmettre. Donc, avec eux et avec vous, à l'aide de cet énorme ouvrage, nous allons pénétrer dans la grotte et essayer d'apprendre ce que ce livre nous permet d'observer, c'est-à-dire presque les gestes, les mouvements, les désirs de nos frères humains et aussi, d'ailleurs, des animaux avec lesquels ils partageaient leur vie. Mais avant de les rencontrer, écoutons tout d'abord la speakerine Françoise Boissonnas et le maire Jean-Pierre Ageron, maire de Vallon-Pont d'Arc, en 1994 sur FR3 Rhône-Alpes, parler d'un volcan de préhistoire qui crache ses beautés dans les gorges de l'Ardèche.
Madame, monsieur, bonsoir. C'est un fabuleux trésor qui vient d'être découvert dans une grotte près de Vallon-Pont d'Arc. Plus de 300 peintures rupestres faites il y a environ 20 000 ans. Un bestiaire d'une exceptionnelle richesse, plus important encore que les sites de Lascaux ou d'Altamira en Espagne. Et à Vallon-Pont d'Arc, le secret a été bien gardé.
Jour de pluie pour le site classé du Pont d'Arc, il n'est plus le seul monument de Vallon. Les gorges de l'Ardèche recèlent certes de nombreuses grottes et avennes, mais cette dernière découverte est unanimement célébrée comme exceptionnelle, du moins par les rares privilégiés qui ont eu accès à ce sanctuaire de la préhistoire.
C'est tout à fait colossal et merveilleux de voir que, comme un volcan, la préhistoire a jailli de 20 000 ans en arrière, n'est-ce pas ?
Dans ce lieu, c'est le gardien des grottes ornées de l'Ardèche en tournée d'inspection qui s'est retrouvé nez à nez avec les peintures d'animaux préhistoriques. Au bout d'un couloir de 500 mètres, un vaste volume décoré par nos ancêtres du paléolithique.
Jean-Michel Jeunesse et Jean-Jacques Delannoy, je suis heureux de vous avoir avec moi au téléphone. Je regrette de ne pas être avec vous réellement, mais quelle chance de pouvoir entendre tout ce souvenir de 94 et tout ce qui s'est passé dans vos vies depuis autour de cette grotte, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait, c'est exceptionnel. Et cette belle image de volcan qui vient de l'ancien maire de Vallon est d'une beauté époustouflante et correspond bien à la réalité de la découverte d'alors.
Quelle stupeur donc, et surtout quel effort depuis ce temps-là pour la description de ce que nous avions découvert. La speakerine parlait de 20 000 ans, on n'en est plus là, on sait que c'est pas exactement cette période-là. Comment s'est fait la recherche, le travail, et au fond, je suppose, très vite, les datations sont apparues?
Il faut dire que la découverte était tellement exceptionnelle face à l'état de conservation de ce site, face à l'exubérance d'un art qui n'était pas encore connu sous ces formes techniques-là, par exemple l'estompe, l'usage de la poudre mélangée avec une paroi molle, l'âge qui a été estimé beaucoup plus près de nous, comme souvent, c'est logique. Dès les premières visites et surtout dès l'impression qu'a fait partager Jean-Claude, qui a été en fin de compte l'immédiat inventeur intellectuel après les trois spéléologues, des datations ont été très rapidement faites et elles ont fait tomber une première information qui elle aussi a été comme un volcan, une explosion. C'était quasiment 20 000 ans de plus, c'est-à-dire que l'âge de Lascaux attendu s'est révélé celui de 36-37 000 ans par rapport à l'époque actuelle. Donc autant de temps entre Lascaux et Chauvet qu'entre nous et Lascaux, si vous voulez. Et à partir de là, tout s'est enchaîné. Le site est tellement exceptionnel, il a tellement de vestiges au sol et sur les parois, il est dans un état de conservation climatique tel qu'on dirait que les premiers artistes viennent de disparaître, qu'aussitôt les instances du ministère de la Culture ont opté pour la mise en œuvre d'un système de recherche de longue durée et d'un équipement de la grotte qui puisse permettre de conserver le site, ses ressources, mais de permettre à des chercheurs d'y séjourner régulièrement. Voilà comment démarre le projet de la grotte.
Alors Jean-Michel, ce projet commence donc à ce moment-là, avec le soutien évidemment du ministère de la Culture, et avec Jean-Jacques Delannoy, vous avez commencé d'abord les recherches bien entendu, avec tout un groupe de personnes, mais aussi à imaginer qu'il y aurait ce livre incroyable, cette somme gigantesque qui vient d'être publiée, et qui sera en trois volumes. Là, le premier volume vient de sortir, ça décrit le site, et au fond, c'est une sorte de guide méthodologique pour l'avenir, pour ceux qui veulent décrire un endroit d'exception. Est-ce qu'on peut dire que c'est un pas en avant dans l'art de décrire?
Je vais laisser mon ami
Jean-Jacques Delannoy, dites-nous.
Oui. Alors, c'était effectivement un pari, ce premier ouvrage de la monographie, dans le sens où on voulait donner à voir la grotte, à voir tout cet art, à voir tous ces vestiges archéologiques dans le contexte de la grotte. Et ça nous paraissait important de raconter aussi la grotte, bien entendu avec son art, mais aussi raconter ce qu'est cette grotte. Puisque les hommes et les femmes de la préhistoire, ils ont inscrit, leurs œuvres, ces chefs-d'œuvre dont vous parliez tout à l'heure, dans des espaces, dans des paysages souterrains qui sont tout sauf anecdotiques. Ils ont une force, ils dégagent des sentiments, des ressentis qui sont extrêmement forts. Et bien entendu, quand aujourd'hui on se promène dans la grotte, on ressent tout ça. Et tous les visiteurs ressentent qu'on n'est pas dans une grotte ordinaire, qui est les peintures ou pas les peintures par ses formes qui sont très, très organiques, très particulières. Et bien entendu, évidemment, on pense que les préhistoriques, ils ont ressenti aussi ça dans le première visite.
Ça m'a beaucoup frappé, Jean-Jacques, en regardant ce livre avec les centaines de cartes que vous avez fait, de coupes, de stratigraphies, d'études. Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'un géomorphologue, je ne savais pas très bien ce que ça voulait dire, vient faire dans cette histoire. Ce qui m'intéresse, c'est de voir les peintures et pourquoi est-ce que j'apprendrais quelque chose sur les couches sédimentaires, etc. Je ne me rendais pas compte. Et au fond, il y a trois choses dont je me suis rendu compte. c'est que cette grotte, s'il n'y avait pas les peintures, vous venez de le rappeler, serait déjà exceptionnelle géologiquement, elle est extraordinaire. Ça m'a beaucoup frappé. Deuxièmement, c'est qu'elle est extraordinaire du point de vue de la fréquentation animale qu'elle a reçue. Il semblerait qu'elle soit unique. C'est ce que j'ai lu dans votre livre. Et elle est extraordinaire aussi par tous les dépôts que vous avez réussi à relever. On arrive presque à relever, grâce à votre science, dont vous allez nous dire un mot, la géomorphologie, on arrive presque à relever les mouvements de telle personne qui a dû, à un moment donné, déplacer une stalactite pour faire telle ou telle chose.
Oui, c'est... En fait, cette grotte, la grotte Chauvet, c'est une grotte qui est exceptionnelle. Et je pense que tout à l'heure, vous avez parlé de, avec l'annonce de la découverte, c'était un bouleversement, je veux dire, dans l'histoire de l'art. Et je pense que c'était un bouleversement pour chacun des chercheurs qui ont travaillé dans cette grotte. Je pense qu'il y a une vie avant et une vie après. Et c'est vrai que pour, personnellement, cette grotte, elle a tout pour elle. Bien entendu, c'est une grotte d'un point de vue art pariétal exceptionnel. Mais s'il n'y avait pas d'art pariétal, ce serait une grotte, je veux dire, exceptionnelle par tous ces ossements d'ours qui en font une des plus grandes cavités d'ossements de l'Europe. Et si on enlevait ces ossements, bah, ce serait une grotte qui serait extraordinaire par ses paysages souterrains. Et si on enlevait cette beauté des paysages souterrains, c'est une grotte qui est extraordinaire parce qu'elle nous raconte 5 millions de l'histoire de notre Terre et ensuite de cette connexion entre cette grotte et puis les hommes et puis les animaux. Et c'est vrai que c'est ça qui fait la force de la grotte Chauvet.
Jean-Jacques, est-ce que vous pourriez nous dire deux choses, nous faire ressentir, même sommairement, mais dans le livre c'est extrêmement bien décrit, qu'est-ce que l'on voyait à cette époque-là, à cet endroit-là? Est-ce que c'était déjà un espace exceptionnel? Comment était l'entrée de la grotte et dans quel paysage était-elle? Où était la mer? Où était la glace? Où étaient les animaux? Est-ce qu'on peut ressentir le paysage?
C'est une question... Je pense que... On ressent plein d'histoires, voilà. Et donc, quand on a les clés, justement, le clé de la géomorphologie, qui est l'étude, justement, des formes du relief, et donc ici, des formes de la grotte, on sait qu'une forme, c'est toute une histoire qui a évolué durant le temps. Et chaque processus a sculpté, en fait, une partie de la grotte. Donc, quand on a la lecture et ses clés de lecture, on arrive à retrouver à remonter le temps et se dire tiens il s'est passé ça, mais avant il s'est passé ça et avant il s'est passé ça et ça c'était une des démarches qu'on a essayé de mettre en place dans le cadre de l'ensemble de l'équipe scientifique. Quelle était la grotte au moment des fréquentations? Est-ce qu'elle était la même qu'aujourd'hui ou elle était différente? Et ça c'était extrêmement important. Et c'est extrêmement important dans le sens où on pourrait, je veux dire, avoir un certain nombre de raisonnements sur le positionnement de certaines œuvres, sur le positionnement de certains rivières d'ossements à la lecture du paysage d'aujourd'hui. Et peut-être qu'on peut, comme ça, se tromper, en fait, dans les interprétations. Donc, il était essentiel, à un moment donné, se dire, mais c'était quoi la grotte il y a 36 000 ans? Et ça, ça a été, je veux dire... tout le travail pluridisciplinaire qui a été fait dans le cadre de l'équipe scientifique, à partir des informations archéologiques, à partir des informations géomorphologiques, à partir des informations paléontologiques, de dire « Ah, ça s'y était, ça s'y était pas, ça s'y était, ça s'y était pas encore. »
Je brûle que vous me disiez comment elle était, parce que le site est inouï à cause de ce pont fabuleux, ce pont d'arc extraordinaire, dont je suppose qu'il a été déjà repéré comme inouï par nos prédécesseurs. Mais on était dans quel paysage? Qu'est-ce qu'on sait?
Alors, le paysage de la grotte était à peu près similaire à aujourd'hui, à quelques variantes près. Et la plus grande variante, c'est effectivement qu'aujourd'hui, la grotte Chauvet, on ne la voit pas dans le relief. À l'époque, c'était un porche qui était énorme dans le paysage et qu'on voyait ce porche depuis l'arche du Pont d'Arc et cette arche majestueuse au-dessus de l'Ardèche. Et c'est vrai que ce paysage, il est extrêmement fort d'un point de vue composante de son relief. On a cette rivière qui pénètre dans le massif calcaire. des gorges commencent à se mettre en place. Il y a cette grande arche dans lequel, sous laquelle passe l'Ardèche. Et puis là, quand vous tournez votre regard vers la gauche, vous voyez un grand escarpement barré par une vire qui conduit, qui va du fond de la vallée jusqu'au plateau. Et sur le parcours, sur le tracé de cette vire, il y avait cette grotte qui était là, gigantesque, hein, comme point de vue entrée, puisqu'elle faisait environ 8 mètres de large pour à peu près 5-6 mètres de hauteur, donc quelque chose qui se voyait dans le paysage. Voilà, ça c'est déjà la première approche de la grotte Chauvet, c'était ça, quoi, je veux dire, au moment du paléolithique.
Il faisait quelle température à ce moment-là?
Alors la température qu'il faisait, on était dans un contexte encore, je veux dire, froid. Hein. Nous ne sommes pas ici avec les glaciations qui existaient dans les Alpes, mais on était dans un contexte qu'on appelle périglaciaire, à côté des glaciers, et il faisait effectivement froid. La végétation, c'était une végétation stépique, avec quelques arbres qui sont essentiellement des pins sylvestres, des bouleaux, quoi. En fait, toute cette végétation qu'on retrouve aujourd'hui en très haute latitude. Et voilà, c'est un contexte froid. Donc, je veux dire, le paysage...
La mer était au même endroit ou elle était plus près?
Ah non, la mer était au même endroit, sauf qu'elle était une centaine de mètres en contrebas, puisque pendant les périodes froides du Quaternaire, pendant les glaciations, la mer a tendance à redescendre, puisqu'il y a moins d'eau qui arrive au niveau de la mer, donc elle est moins alimentée.
100 mètres, ça fait une grosse différence quand même. Et Jean-Michel Genest, tout ça, cet habitat, l'activité humaine commence environ 32 000 ans, 33 000 ans avant notre ère, avant le présent, avant aujourd'hui plus exactement. C'est bien ça?
L'activité dans la grotte est datée de 37 000 ans à l'heure actuelle. Donc 37 000 ans, c'est l'âge qui a été obtenu par la datation du charbon de bois qui a permis de faire certains dessins. Et là aussi, les archéologues ont une grande chance d'avoir des œuvres qui sont faites avec une matière organique qui peut être datée par la méthode du radiocarbone. Il y a d'autres œuvres qui sont en rouge mais qui, elles, sont pas datées, qu'on va donc situer dans le temps, dans la durée, de manière indirecte. Plus ancien qu'eux, plus récent que les dessins noirs, voilà.
Alors, il y a eu deux moments, si je me souviens bien, d'occupation de la grotte, avec une activité humaine dans la grotte, avec un silence entre les deux. Il y a presque eu 2-3 000 ans d'absence. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce silence?
Alors, les données dont l'archéologie se nourrit sont des données objectives et nous essayons de dater autant que faire se peut les occupations humaines. Les occupations humaines se datent pour cette période-là, surtout avec du carbone, avec des ossements, donc les ossements des animaux. Il n'y a pas d'ossements humains que l'on puisse dater. Et on a effectivement vu, en faisant un modèle synthétique de toutes les datations, que cette première phase qui correspond à la culture aurignacienne développée dans toute l'Europe, c'est celle des premiers dessins qui sont des dessins noirs au charbon de bois. Mais que dans les documents que nous avons, c'est-à-dire dans les traces de feu, de foyer, de charbon de bois autour des foyers déposés sur les sols, nous avons aussi un pic important d'une occupation humaine qui est plus tardive, aux alentours de 30 000 ans. Et à 30 000 ans, on n'est plus exactement dans la culture aurignacienne, mais dans une qui lui suit, la culture gravettienne. On a donc deux phases d'occupation, et entre les deux, en fin de compte, nous ne savons pas si la grotte n'était pas occupé, ou au contraire s'il n'y a pas eu de vestiges datables. On peut bien imaginer que des groupes humains ont pénétré, ont visité toujours la grotte, que cette culture était toujours active au niveau de la transmission entre les grottes, entre les humains et les sociétés, que les symboles qui étaient dessinés, l'espèce avait un sens, bref, que la société était sensible au discours qui était là exprimé, mais que les visiteurs n'ont pas fait de feu, n'ont pas laissé de traces. Il est peu probable que la grotte soit sortie des mémoires, voyez, complètement oubliée. Elle a peut-être été un peu désaffectée, mais en tout cas, l'archéologie n'a pas de documents objectifs à mettre là. Et ça, c'est malheureusement ce qui se passe dans les aléas de la constitution des traces et des vestiges.
Une chose qui m'a étonné en lisant votre atlas, c'est la relation très particulière avec les animaux. Non seulement, et là justement, je voyais que, je crois que Jean-Jacques a dû particulièrement y travailler, mais je voyais le nombre d'espèces repérées avec les ossements qu'on a trouvés sur place, etc. Jean-Jacques, il y a eu quel genre d'animaux? Est-ce qu'il y a eu énormément d'animaux en effet?
Alors, il y a eu beaucoup, quoi. Oui, il y a un nombre d'animaux qui sont assez importants d'un point de vue dans les vestiges contenus dans la cavité. Alors moi, c'est pas ma spécialité. C'est plutôt les paléontologues qui ont travaillé là-dessus, donc essentiellement Philippe Fosse, Michel Philippe et d'autres. C'est ce qui caractérise en fait surtout la grotte Chauvet, c'est le nombre extrêmement important d'ossements d'ours des cavernes. Et c'est vrai que ces animaux étaient très grands. Et forcément, quand on voit ces ossements aujourd'hui dans la grotte, ces crânes qui sont gigantesques et le reste des ossements, bon, ça marque, je veux dire, quand on traverse la cavité. Mais après, il y a d'autres types d'ossements. On trouve des vestiges de bouquetins, de crânes de loups. On trouve, et beaucoup d'autres, je veux dire, bon, c'est...
Moi, j'ai lu dans votre atlas qu'il y avait 42 animaux et une douzaine d'espèces repérées. C'est considérable. Et alors, ça me pousse à vous poser une question, et une question perverse, évidemment, à Jean-Michel. C'est, est-ce que... Donc, ces hommes ont fait le choix d'habiter, ou de pas d'habiter, le mot est pas juste, mais en tout cas, d'avoir une activité culturelle là où les ours qui étaient les ours des cavernes, je crois que c'est des ours dangereux, vous allez nous dire, habitaient, si je puis dire, ou en tout cas hivernaient. Est-ce que les hommes allaient là parce qu'il y avait des ours ou malgré le fait qu'il y ait des ours? Jean-Michel.
Une partie des chercheurs de l'équipe s'est bien entendu interrogée. Ce sont d'une part les spécialistes de l'art pariétal qui, voyant des ours figurés, en quantité assez importante, parce que l'ours est un animal rare dans le bestiaire des grottes ornées. Et là, il y en a quand même un certain nombre gravés, dessinés en rouge, dessinés en noir au charbon de bois. Et en même temps, cette grotte a été un lieu de vie et de reproduction des ours, en ce sens qu'ils y passent, ils y hivernaient, et la reproduction des femelles avait lieu, et mères et petits sortaient au printemps à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle il y a un grand nombre de squelettes, d'adultes, de mères avec des jeunes ours qui sont morts pendant cette période difficile. Donc ce site a été identifié très tôt par les hommes comme étant un site où l'ours avait une partie de sa vie et ses activités. Ces sociétés humaines étant essentiellement des grands prédateurs, des chasseurs, ils avaient une connaissance particulièrement fine et détaillée du comportement des ours, et ils savaient bien que les ours n'étaient dans les grottes qu'à un certain moment et qu'ils passaient l'été ailleurs. Alors, est-ce que c'est cette présence de l'ours qui a attiré les hommes d'une certaine manière en concurrence pour l'habitat, mais ce n'est pas un lieu où vivent les hommes, mais simplement une concurrence symbolique pour y apporter les œuvres, ou bien s'agit-il simplement d'une des plus belles grottes naturelles de cet espace des grottes de l'Ardèche, où malgré tout plus d'une vingtaine, presque une trentaine de grottes sont des grottes ornées dans ces gorges, et qu'à ce titre-là, il souhaitait l'occuper et l'investir, quel que soit le premier occupant qui revenait tous les hivers probablement, qui était l'ours des cavernes. En tout cas, il est à peu près certain qu'il n'y a pas eu interaction autre que symbolique ou imaginaire entre la société des ours, la société société animale des ours et la société humaine, puisqu'on n'a pas de traces d'affrontement, on n'a pas apparemment de décès, de combats, etc., et que le grand carnivore aurait certainement eu le dessus parmi le, par rapport à l'homme. Mais néanmoins, d'autres encore s'interrogent parmi les archéologues qui travaillent et ceux qui étudient l'étude, les foyers, l'élévation thermique, la présence de fumée sur les parois, en se demandant si après tout, tous ces feux sur les sols n'étaient pas pour éloigner avec l'odeur, avec la fumée, les groupes. Vous voyez, c'est un exemple, la question de l'ours et la question de la présence humaine et de la représentation de l'ours, comme vous le posez, comme vous en formulez la question, Jean, y avait-il un attrait, y avait-il une interaction, y avait-il une relation interspécifique entre l'homme et entre cet autre vivant qui est l'ours, ou bien est-ce que c'est simplement le hasard, ce sont des comportements très organisés, quelle est la place de, symbolique de cet animal dans la représentation. Toutes ces questions sont ouvertes et c'est une approche globale simplement qui apportera les réponses.
Alors 178 ours différents ont leurs ossements dans cette caverne, c'est considérable. Le fait que ce soit une nurserie est tellement lié à la vie et le sommeil de l'ours tellement lié à la mort qu'on est forcément dans un univers qui est peut-être sacré pour les uns et peut-être sacré pour les autres. En tout cas, il a une richesse de possibilités symboliques considérables. Cher Jean-Michel, est-ce que lorsque vous avez travaillé avec votre compère Jean-Jacques Delannoy, vous avez vu, en étudiant le sol, les caractéristiques, la transformation avec le temps de tout cela, est-ce que vous avez vu des mouvements qui ont été faits d'aménagement? Est-ce que vous avez vu des objets qui ont été portés d'un endroit à l'autre? Est-ce qu'on arrive à retrouver si on a modifié intentionnellement la disposition physique de la grotte par endroit?
L'étude des sols de la grotte Chauvet, l'étude donc par les archéologues de ce qu'il y a en surface, a retenu l'attention de plusieurs archéologues. D'abord, les objets techniques ont été observés sur le sol. Ils ont été étudiés par des collègues comme Bernard Gély, qui est un archéologue de la région, qui connaît très bien l'Ardèche. Et nous avons étudié la répartition de ces objets. Mais plus que tout, il est apparu aussi, puisque cette grotte et les sols de cette grotte ont été si bien préservés, si bien enregistrés, très peu modifiés à certains endroits, que des traces apparaissaient de ce que nous appelons, qu'on pourrait appeler des aménagements. On voit un endroit que une grosse dalle a été placée sur un cheminement et installée à un endroit glissant entre deux salles. S'agit-il d'une marche, d'un escalier pour stabiliser le sol? C'est probable. À d'autres endroits, il y a de plus énigmatiques amoncellements de blocs pour cacher quelque chose, recouvrir, s'élever, etc. On a des aménagements de ce type. À d'autres, ce sont des extractions d'argile où on voit encore les empreintes des doigts, les empreintes digitales de cette extraction. Pourquoi faire? À un autre endroit encore, il y a un bassin, une retenue d'eau sous un égouttoir pour capter de l'eau, la boire, s'en servir. Vous voyez? Et de la même manière, des objets, que des blocs ont été déplacés, les ossements de l'ours eux-mêmes ont été manipulés, certains redressés, certains changés de place. Un des plus énigmatiques, mais les plus impressionnants, est un crâne qui a été prélevé sur le sol, puisqu'il a encore de la terre, des charbons de bois, et il a été installé sur un grand bloc qui est dans une salle, la salle dite du crâne, depuis. Donc voici ce que l'archéologue a pu percevoir d'une multitude d'actions et de comportements qu'il a dû réaliser et dont seulement quelques-uns sont encore perceptibles ou interprétables.
Ce qui m'a intéressé, c'est de voir que à un endroit de votre atlas, je ne sais pas si c'est une partie que Jean-Jacques a écrit, il est écrit à propos, ça se passe dans la salle du cactus. Je ne sais pas si vous pouvez m'en dire quelque chose, Jean-Jacques Delannoy. Il est écrit dans la salle du cactus que les stalagmites ont été déplacés et vous dites qu'il y a un statut culturel de cet ensemble. Ça veut dire que la curiosité de cette stalactite, qui est un objet très extraordinaire, c'est une stalagmite d'ailleurs, blanche comme ça, qui monte dans l'espace et qui se développe comme un cactus et qui a donné son nom à l'endroit. On a l'impression qu'on a réparti autour d'autres bouts de cassés pour pouvoir s'asseoir autour et en parler. Et je m'étonnais de ce statut culturel de l'ensemble. À partir de quel moment un aménagement devient un événement culturel ?
Alors, l'exemple de cette structure, effectivement, appelée du cactus, qui est effectivement un certain nombre de pierres qui sont disposées en cercle, et avec cette stalagmite qui est au cœur de ce cercle de pierres, et qui est effectivement une forme de cactus. Et ça, c'est quelque chose qui avait tout de suite attiré l'œil des archéologues, comme une probable structure anthropique. Et c'est là où, je veux dire, le croisement de différentes disciplines, notamment de l'archéologie et de la géomorphologie, amène et apporte des nouveaux regards. Je m'explique. Aujourd'hui, ce qui retient notre attention, c'est ce que vous avez, Jean, décrit. Cette concrétion, cette stalagmite, très blanche, et avec ces pierres autour. Par l'approche qu'on va appeler archéo-géomorphologie, qui va croiser les différentes disciplines, cette concrétion, qui est aujourd'hui magnifique, n'existait pas au moment où ce cercle de pierres a été constitué.
J'ai cru que c'était lié.
Non, alors oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que vraisemblablement il y avait peut-être une ancienne petite concrétion qui devait être peut-être là, mais pas du tout dans sa magnifiance, dans sa beauté actuelle, parce que tout ça, ce sont des concrétions, des stalactites et des stalagmites qui ont poussé après.
Mais je dois dire que c'est tout l'intérêt de votre travail, c'est que on projette évidemment notre imaginaire sur ce que l'on voit, et sans savoir que à cette époque-là, ça ne se voyait pas justement.
Voilà, c'est ça. Donc c'est tout la qualité de la démarche qui était effectivement de dire c'était quoi le paysage à ce moment-là. Et là, par rapport à cette structure du cactus, on s'est rendu compte par l'étude géomorphologique que une grande partie de cette structure est naturelle. En fait, c'est un morceau de plafond qui est tombé et les pierres se sont disposées de manière, on va dire, presque quasi circulaire, parce qu'il y avait au milieu un petit promontoire qui fait que les roches sont réparties naturellement autour. Sauf que il y a trois blocs qui ont été déplacés par l'homme, et ça, donc, c'est toute l'étude, on va justement par l'approche géomorphologique mais archéologique, de retrouver les gestes, en fait, humains inscrits dans le minéral, puisque là, c'est dans la pierre, et ben on a vu qu'il y a trois éléments, trois blocs qui ont été déplacés, et c'est en ça que c'est plus une structure naturelle, mais c'est une structure qui est culturelle, parce que l'homme a mis sa place et a finalisé un travail de la nature. Voilà, donc c'est en ça que je veux dire, elle a une dimension culturelle, c'est un des actes délibérés de déplacement de blocs pour former donc ce cercle quasi parfait.
Merci Jean-Jacques. Donc on va continuer à évoquer cette question de la mise en scène pariétale. Je reprends un mot qui est dans l'ouvrage, et on va dans quelques instants parcourir les moments où on sent que la mise en scène pariétale, comme vous le dites, dans cet atlas est effective et crée une spectacularité et un sens très particulier. Mais je vous suggère d'attendre quelques instants pour que nous puissions écouter une musique qui me plaît, parce qu'après tout, ce qu'on essaye ensemble, c'est d'entendre le son de cette préhistoire. C'est une musique sur ossement préhistorique qui vient du site de Medzin. Ça a été enregistré en 1980 par des musiciens et le professeur Bibikov. Un peu de musique préhistorique, allons-y.
Thank you.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez L'Art et la Matière et nous évoquons l'atlas qui vient de sortir sur le, qui vient d'être publié sur la grotte Chauvet-Pont-d'Arc avec ses deux directeurs d'ouvrage, Jean-Michel Genest, archéologue, et Jean-Jacques Delannoy, géomorphologue. Et Jean-Michel, qu'est-ce que nous venons d'entendre? Et est-ce que dans cette foulée, vous pourriez nous dire si il y a eu des traces de musique, si j'ose dire, dans la grotte Chauvet?
Dans la grotte Chauvet, à proprement parler, et d'après les études actuelles, on n'a pas particulièrement d'indices, et je ne crois pas que nous ayons d'indices qui permettent d'attester soit l'usage ou l'emploi de percussions sur certaines stalactites et stalagmites qui vibrent sur et qui font et qui procure de magnifiques impressions dans le milieu souterrain, comme on en connaît dans certaines grottes. Certaines ont pu fonctionner et utiliser de cette manière-là. On n'a pas non plus découvert d'instruments de musique, comme on a pu, ou des fouilles ont pu les mettre en évidence dans d'autres sites. Mais cette musique qui a été reconstituée, disons que c'est un orchestre d'instruments d'époque. Ces instruments d'époque, ce sont des ossements, crânes de mammouth découverts dans le site de Medzin, qui date de 19 000 ans, dans la grande plaine russe, en Ukraine, où l'archéologue et académicien Bibikov a sélectionné des très gros ossements de mammouth qui portaient des dessins, des signes géométriques en ocre rouge et sur lesquels il a cru identifier des traces de percussions. Et voilà ce que donnaient ces percussions. Mais ce qu'il voulait surtout, c'était rappeler le fait que, et pour nous c'est utile, qu'à côté de ce volet, de ce registre de l'art pariétal, il y a un ensemble d'éléments qui relèvent de cette capacité artistique qui s'exprimait aussi dans la vie courante, au sein des habitats. C'était sous forme de statuettes, de gravures, sur des matières osseuses, de l'ivoire, mais aussi à travers tous les objets décorés d'animaux, de représentations, auquel il faut rajouter l'existence d'éléments qui ont disparu, le chant, les danses, la musique, il y avait beaucoup d'instruments de musique à cette époque, tous éléments qui ont disparu avec la vie, mais dont on doit en permanence imaginer la présence, notamment dans un sanctuaire comme cette profonde grotte Chauvet où il y a de l'espace, où des groupes humains ont pu stationner, séjourner, passer et s'exprimer de manière corporelle sur d'assez vastes espaces.
Jean-Michel,
oui.
Par rapport à cette question, parce qu'effectivement, j'imagine, je sais qu'on connaît, par exemple, des flûtes en os d'oiseaux de cette du monde paléolithique, plus tardive, mais du monde paléolithique, dont je suppose que tout cela a été vécu. Mais ça a été vécu. Est-ce que cette mise en scène pariétale dont on parle, c'est-à-dire cette déambulation qui vous conduit de la première salle éboulée jusqu'à la salle du fond de cette grotte, est-ce que vous avez la sensation, comme ça a été dit parfois, que c'est une construction extrêmement logique, ritualisée et organisée?
Les premières idées concernant cette organisation de la disposition, de la répartition des types animaux, des espèces, bref, des formes animales de cet art figuratif dans la grotte, et apparaît chez des auteurs dans les années 50 comme Annette Lamy-Gampourer et André Leroy-Gourhan, qui va démontrer effectivement que certaines formes, certaines espèces sont associées à certains espaces. Et c'est particulièrement dans des grottes longues, bien étalées et développées que l'on peut observer cette répartition. La grotte Chauvet, avec ses presque 500 mètres de développé, sa grande entrée qui était dans la pénombre, puis ses salles profondes qui sont réellement dans l'obscurité, est un bon modèle de ce que les études ultérieures dans les autres volumes vont montrer, c'est-à-dire comment cet art se répartit. À l'heure actuelle, dans l'Atlas, on a de façon objective placé sur toutes ces cartes l'emplacement des œuvres. Et on voit bien à ce moment-là se répartir des panneaux qui sont espacés et que le rythme de ces espacements va peut-être faire l'objet d'une étude plus détaillée. On sait d'ores et déjà que dans les premiers espaces, les dessins sont plutôt rouges, que l'art figuratif, lion, mammouth, rhinocéros, y sont bien moins nombreux qu'ils ne seront dans les espaces finaux, où tout le monde a probablement en tête le panneau de la salle du crâne, le panneau des chevaux, le panneau des rennes et la salle du fond, où ce sont des dizaines d'animaux, lions, rhinocéros, chevaux et bisons qui sont en train d'interagir. Oui, probablement, les recherches futures vont mettre à jour le détail de ces rythmes. Et ces rythmes sont fondamentaux dans cette expression artistique qui est calquée sur les parois minérales du monde. Et c'est pour ça qu'il est important d'évoquer aussi les rythmes de la vie, les rythmes du travail de la matière, les rythmes des chants, les rythmes de la musique. Tout cela, probablement, avec l'oralité des récits qui nous manquent, devait composer un tout et donner sens à cet art pariétal.
Alors, il y a un moment dans l'Atlas, je pense que c'est, vous parlez à ce moment-là de la salle du fond, la galerie, je crois que c'est la galerie du Belvédère, et vous dites au centre, la cavité triangulaire évoque une grande matrice d'où semblent surgir les animaux, les lions à gauche et à droite les bisons. Et ça donne la sensation quand on lit cette phrase, je ne sais pas lequel des chercheurs a écrit cela dans l'Atlas, que la grotte entière est une matrice d'où sortent ces animaux. Et on est à la fois dans la constatation, parce que c'est vrai qu'il y a une cavité triangulaire et qu'à gauche il se passe ceci, à droite cela, et qu'on a l'impression que tout émerge de là, et on est déjà dans l'interprétation, on est dans la constatation et l'interprétation. Et comment, où faut-il ne pas s'arrêter ?
Il est difficile de s'arrêter à la simple description, c'est cela. Et c'est d'ailleurs un des obstacles ressentis par la totalité de l'équipe dans la réalisation et dans la détermination du contenu de ce premier volume qui voulait présenter des données objectives, mais ne pas en fournir les éléments, si possible immerger le lecteur ou le public, mais présenter un panorama du possible des recherches sans avancer sur l'interprétation. Néanmoins, nous sommes des humains sensés et tout un chacun, en regardant les plans, la répartition des œuvres et cette grande scène finale dont vous parlez, Jean, on voit bien qu'elle est organisée, qu'elle est structurée, que les animaux ne sont pas n'importe où, qu'ils sont regroupés, qu'il y a même une signification dynamique dans leur interaction et que tout est organisé en fonction de la morphologie de l'espace et que ces espaces souterrains, ici à la grotte Chauvet, sont fluides, sont lisses comme l'intérieur d'un corps, comme des éléments organiques, et qu'effectivement, une cavité au milieu d'un grand espace, associée un petit peu à droite à une figuration d'une représentation du bas d'un corps féminin avec le triangle pubien, tout cela fait une interaction et on est obligé de penser à l'imaginaire et à des représentations symboliques, même si l'interprétation, même si les clés, même si le détail de l'analyse n'est pas formulé là, on le ressent et c'est là que s'arrête cet ouvrage, puisque c'est le premier d'une série.
Le prochain, c'est...
Les prochains ouvrages, en tout cas les deux prochains, vont être consacrés réellement à l'étude de l'art dans un ordre spatial. D'abord les premières salles qui ont fait l'objet d'une vingtaine d'années de recherche, ou une quinzaine d'années, puis ensuite les salles les plus profondes. Il y a fort à parier que les dernières études interviendront dans quelques années, mais le prochain est quasiment prêt, il devrait pas tarder.
On est vraiment impatients. Et quand vous dites art, par exemple, parce que c'est intéressant, évidemment, on pense à toutes ces peintures fabuleuses, ces techniques, cette perfection d'observation, etc. Mais Lorsque l'on met un crâne d'ours sur une pierre rectangulaire et que il semblerait, si je me trompe pas, que d'autres ossements d'ours ont été installés tout autour de celui-ci, est-ce qu'on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'art ou de la pensée symbolique, ou est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez?
Cet ensemble d'expressions, mais résolument et profondément artistiques, que l'on appelle l'art pariétal, l'art préhistorique, montre qu'il est diversifié. Il est diversifié dans ses formes d'expression. Sur les parois, c'est aussi bien de la sculpture, de la gravure, du dessin, de l'estompe, de la peinture, etc. Gravure sur parois du roubol, etc. Et dans ses techniques. Bref, il n'a pas tellement de limites si on regarde les 300 grottes ornées que l'on connaît dans l'espace eurasiatique. Donc c'est une expression symbolique et qui est plurielle. Mais il ne faut pas oublier qu'elle est graphique, qu'elle est à la fois figurative, qu'elle est non figurative parce qu'il y a des signes dont la géométrie nous échappe, qu'elle est imaginaire puisqu'il y a des formes qui ne sont pas seulement animales et humaines, il y a beaucoup d'anthropomorphes, et donc elle est codifiée aussi avec des règles particulières de représentation, d'usage de la perspective. Mais tous ces éléments qui sont associés, que l'on trouve, manipulation, installation d'ossements, font penser à l'évidence à un grand ensemble de rituels et de comportements techniques qui composent ces expressions artistiques. Et elles sont artistiques au sens où il y a bien une évidente esthétique, une beauté qui nous touche aujourd'hui, aussi bien dans la formalisation que dans l'insertion dans la paroi, l'insertion dans le milieu naturel, l'installation dans la grotte. Donc c'est un système extrêmement sophistiqué de communication et de transmission.
Jean-Jacques Delannoy, il y a une certaine frustration, je suppose, de votre part, au fait de n'avoir pas pu examiner la totalité de la grotte, si j'ai bien compris, en lisant l'Atlas. Vous êtes conduit par un cheminement qui a été installé par les archéologues, et vous pouvez aller aussi loin que vos bras ou vos outils peuvent aller, mais il y a une énorme partie de la grotte que vous n'avez peut-être pas pu explorer aussi profondément que vous l'auriez souhaité.
Alors, oui et non. Quoi, je vais dire oui, bien sûr, parce que bon, je veux dire, mais c'est la même frustration. Elle est partagée avec des amis archéologues et paléontologues aussi, puisque effectivement, nous cheminons sur ces passerelles qui ont été installées, mais en même temps, et la frustration, elle peut être aussi sur d'autres choses. J'entends. Il faut bien avoir en tête que tout le travail qui a été fait depuis plus de 20 ans dans la grotte Chauvet, elle repose que sur des informations qu'on a en surface des sols, en surface des parois et aussi sur les plafonds. C'est-à-dire que, hormis, je veux dire, un petit sondage qui a été fait au pied de l'éboulis d'entrée, qui a fermé donc la grotte, on n'a pas d'informations qui nous permettent de remonter dans le temps sous le sol. Et vraisemblablement, il y a encore beaucoup, beaucoup d'informations. Et un jour, peut-être, si, je veux dire, il y a des sondages qui sont faits dans cette grotte, on va encore enrichir cette grotte de plein d'histoires.
Parce que vous avez, là, je lisais dans votre atlas, que n'ont été pratiqués que 10 sondages et encore sur quelques centimètres. Donc c'est extrêmement peu. Alors c'est vrai que vous avez analysé le déplacement d'objets, tel os à l'entrée a été planté à côté du crâne et ça veut dire sûrement quelque chose. Déjà c'est formidable, mais je rêve que vous découvriez en dessous, au-delà des 20 objets que vous avez trouvés avec les équipes de chercheurs, d'autres objets, d'autres révélations, qui sait, une sépulture, je ne sais quel fantasme apparaît en moi dès que j'imagine que vous allez creuser dans ces grottes. Est-ce que ça sera le cas? Est-ce que vous allez pouvoir vraiment fouiller?
Alors, le parti, il y a vraiment une décision qui avait été prise dès le début, donc de l'équipe scientifique, alors je veux dire dirigée par Jean-Claude, qui était de dire cette grotte, elle est tellement riche en informations archéologiques, paléontologiques, géologiques, géomorphologiques, que déjà toutes ces informations-là, essayons déjà d'intégrer toutes ces informations-là qui sont visibles, lisibles sur la surface des parois et la surface des sols. Et déjà, quand on voit, bon, je veux dire, l'importance de cette l'atlas, vous voyez, on ne fait que présenter et effleurer l'ensemble de ces informations qui sont au sol. Donc il y a déjà une c'est déjà vertigineux, toutes ces informations, toutes ces archives, toutes ces traces qui sont là à la surface du sol et des parois de la grotte. Et c'est ça aussi qui a donné, je veux dire, naissance en fait à cet atlas. C'est-à-dire que la grotte, quand on se promène dans la grotte, le visiteur il voit toute cette complexité, il voit toute cette richesse. Et l'Atlas, et cet ouvrage sous forme de carte, avait justement pour fonction, et a pour fonction, de partager cette richesse au travers donc des cartes qui rythment en fait les différents espaces de la grotte, pour que le lecteur puisse, par lui-même, comme qu'on le fait dans un atlas géographique, on va regarder une carte et puis on va voyager à travers cette carte, même si on n'a jamais été dans telle ou telle contrée du monde. Et ben là, c'est pareil. Se donner au fait au lecteur la possibilité, en regardant les cartes de cet atlas, de pouvoir visiter par lui-même la grotte et en percevoir toutes les richesses. Et ces richesses, elles sont faramineuses, quoi. Je veux dire, aussi bien d'un point de vue histoire de la Terre, histoire de notre planète, l'histoire des hommes et des animaux qui ont chacun laissé leurs traces dans les sols et les parois de la grotte.
Mais Jean-Michel, par exemple, Jean-Jacques et Jean-Michel, je sais, j'imagine en tout cas que les humains ne résisteront pas longtemps à ne pas fouiller, à ne pas retourner la Terre. Et je me demandais, où est-ce que vous allez choisir, vous qui avez pu comparer avec cette grotte, avec d'autres sur lesquelles vous travaillez en Australie, d'autres sur lesquelles vous travaillez en Afrique, etc. Et où est-ce que vous allez choisir de creuser quand enfin vous aurez une permission?
Jean-Jacques rappelait l'engagement conservatoire qui fut le nôtre de procéder à des sondages dans des endroits assez discrets de manière à explorer le sous-sol. Cette exploration du sous-sol ici et là nous a déjà donné d'importantes informations sur le fait qu'il n'y a pas eu qu'une seule occupation dans la grotte et que au-dessous du dernier sol d'occupation, de la dernière entrée, il y a des très très minces niveaux avec des charbons de bois qui montrent que les groupes humains sont venus à plusieurs reprises. Alors bien entendu, nous y avons toujours trouvé quelques objets. Un des derniers fut une très belle sagaie en ivoire qui était une arme de chasse. Bref, tous les archéologues qui travaillent dans cette équipe rêvent en effet de pouvoir approfondir. On espère pouvoir faire de manière très discrète et en même temps extrêmement contrôlée. Et ce sont à ce moment-là plutôt vers les espaces du fond, là où se densifie l'occupation, là où elle devient extrêmement prégnante, là où il y a beaucoup d'œuvres, mais aussi beaucoup de vestiges sur le sol, dans ces endroits à la fois resserrés, où il y a des foyers sur le sol. On se demande s'il n'y a pas eu d'autres traces d'occupation, et comme dans d'autres grottes, on serait particulièrement intéressé, et là, c'est l'imaginaire du scientifique qui prend le dessus, pour trouver, comme ailleurs, ces statuettes, ces objets en ivoire, peut-être une sépulture, ou d'autres indices de la complexité du comportement humain dans ce très grand sanctuaire. Le dispositif pariétal qui nous est transmis est tellement exceptionnel que cette exceptionnalité a certainement des prolongements. Et le sous-sol en est un.
J'ai l'impression que on va se réjouir de découvrir dans les 10 ans qui viennent quelque chose d'autre. Je pense que ce travail n'a probablement pas de fin. Et vous savez, ça me fait rêver. Il nous reste une minute. Je dis cela parce que ça m'a fait rêver. J'ai lu, pour préparer notre entretien, Jean-Michel Jeunesse, j'ai lu un livre que vous avez fait avec Boris Valentin et qui raconte vos aventures d'archéologue dans le monde entier. Et je sais qu'il y a un endroit que vous aviez choisi. Je crois que c'est en Australie, mais on va avoir juste une minute pour en parler. Et c'était en Australie et vous avez demandé à la personne qui était la responsable de l'endroit, celle qui en avait hérité au sens métaphysique, où elle rêvait pour que vous puissiez savoir où il fallait commencer.
Oui, j'étais à ce moment-là aussi avec Jean-Jacques Delannoy qui m'accompagne et qui est celui qui, pour moi, donne vie et donne corps au paysage, et Margaret Catherine qui nous avait accueillis sur un endroit où elle avait vécu avant de décider d'un emplacement pour fouiller. Nous lui avions demandé, je me souviens, Bruno David et moi-même, où est-ce qu'elle avait vécu, petite fille, adolescente, dans ce site, et une fois qu'elle nous l'a désigné, près d'un mur, dans un endroit ensoleillé, nous lui avons demandé s'il serait possible de faire là un sondage de manière à raccorder des faits qui habituellement sont muets pour l'archéologue, de leur donner corps et vie. Elle nous avait indiqué et nous avait donné cette autorisation.
Et vous avez trouvé.
Et ça, c'est un. On a trouvé énormément d'éléments, dont une hache, une des premières haches polies datée de 39 000 ans.
C'est-à-dire exactement la date de notre grotte Chauvet, hein.
Donc,
c'est extraordinaire. Jean-Michel Jeunesse, il me reste à vous remercier de tout cœur pour cette conversation que nous avons pu avoir avec vous. Jean-Jacques Delannoy, merci infiniment et bravo pour cet ouvrage exceptionnel. À bientôt.
Au revoir. Au revoir.
La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
Parce qu'on veut transformer la vie pour un moment.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu le grand archéologue Jean-Michel Jeunesse et le géomorphologue Jean-Jacques Delannoy pour parler de la monographie de la grotte Chauvet-Pont d'Arc, l'ouvrage de référence, un poste incunable d'une perfection inouïe paru aux éditions de la Maison des Sciences de l'Homme. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. C'est une émission qui est conçue en collaboration avec Sophie-Catherine Gallet, à la technique Ludovic Auger et réalisation Anna Holweck. Merci beaucoup Anna. La semaine prochaine, nous visiterons l'exposition Turner, peintures et aquarelles, et qui est l'exposition du musée Jacquemart-André et qui révèle le rôle tellement important que Turner a eu dans le monde de l'aquarelle qui apparaissait justement à ce moment-là et qui lui a permis d'inventer d'une certaine façon l'art abstrait. Et dans quelques instants, Jukebox par Amaury Chardot. Bon après-midi sur France Culture.